À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chers amis auditeurs de Radio Cité, comme chaque semaine, j'ai toujours le plaisir de vous présenter quelqu'un qui, de par son pétillement dans les yeux, de par son attitude, de par des soupçons de belle joie de vivre, j'ai envie d'interpeller, parce que dans les situations actuelles, encore plus peut-être que précédemment, puisque là on n'est pas autour d'une table et deux avec un micro, mais on est un petit peu à distance, de se rendre compte que ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de lumière autour de nous, peut-être de belles idées qui nous permettent de voir le verre plutôt plein qu'à moitié vide. Donc, il y a un petit rituel, monsieur Richard Koller, que je pose toujours en début d'émission, à savoir, quand quelqu'un vous dit « merci la vie », comment cela résonne en vous ?
C'est la question que je redoute, c'est peut-être parce que je me la pose tous les jours. Est-ce qu'on dit « merci la vie » ? La vie... Elle est compliquée, elle n'est pas simple, c'est un parcours d'obstacles. Il y en a des difficiles, mais en fait, on dit merci la vie, juste ces instants de bonheur que l'on partage à travers une rencontre comme celle d'aujourd'hui, ou ce moment où on est apaisé, on sait que rien ne nous arrive, ces moments fugaces, c'est qui font le sel de la vie. On ne court pas après, moi je ne cours plus à mon âge, après ces moments-là, j'essaye de les fabriquer. Et à ce moment-là, dans ces minutes, dans ces éclaircies de l'orage de la vie, eh ben, je me dis merci la vie. Et pas tous les jours.
On a déjà eu la chance de manger ensemble. On a vu qu'on avait tous les deux un côté épicurien, avec des bons produits du terroir, avec nos femmes qui étaient ravies de faire connaissance. Pour moi, c'était déjà une opportunité de dire merci la vie, autant pour l'écoute, autant pour le partage, autant pour la joie d'avoir quelque chose de bon dans nos assiettes. Est-ce que parfois, c'est pas simplement par là qu'il faut essayer de trouver ces petites lumières qui font que la vie devient des fois, pour certains d'entre nous, supportable ?
Alors, oui, bien sûr, évidemment, ce sont des moments... La table est quelque chose d'important pour moi. Elle est importante, elle est souvent ritualisée, on me le reproche, j'aime bien... J'oblige même parfois à avoir la famille autour de la table. Je le savoure, mais je suis souvent dans le coup d'après. C'est mon défaut, c'est aussi cette quête permanente d'aller chercher ailleurs et de... Je suis beaucoup dans les livres, moi. Ça peut paraître bizarre, j'ai une vie très publique. Il commence tôt le matin, il se termine tard le soir. Et la première chose à laquelle je me replonge volontiers, c'est dans les livres. Et d'ailleurs, en ce moment, dans cette période de confinement où j'ai ritualisé différemment ma vie avec la radio, le matin, les rendez-vous, les vidéos, etc., le livre garde une place importante parce qu'il nous ramène à des réalités ou à des choses. On n'a rien inventé, cette pandémie, elle existe déjà dans l'histoire. La réaction des hommes existe exactement pareil, et puis voilà, elle éclaire le futur. Donc je cherche aussi par là, c'est aussi ça la vie, cette quête permanente. Et puis à travers ça, on rencontre des gens comme toi, comme tous ceux que je fréquente, parce qu'à mon âge, on a un carnet d'adresses qui est plus fait d'amis, puisqu'on s'est séparés de nos ennemis pour éviter le mal.
Un tel point qu'on a la peine à faire comme il se doit normalement dans une interview, même quand on se connaît, c'est de se vouvoyer. Donc, je vois que spontanément, on a pris un autre biais. Donc, en ce qui me concerne, et je pense que nos amis auditeurs ne nous en voudront pas, au moins, on a le mérite d'être cohérent dans le fait qu'on se connaît. Et ça me fait plaisir qu'on se tutoie, de toute façon. Et je dois relever au passage, c'est qu'à travers le fait que j'ai eu la chance d'être interviewé par toi, tu m'as appris quelque chose qui, pour un béotien comme moi, à la base, était essentiel. C'est-à-dire qu'on peut très bien communiquer devant un micro tout en restant soi-même, en prenant le temps de vivre, de ressentir l'écoute de part et d'autre, et que c'est quelque chose qui, loin d'être stressant, au contraire, est apaisant. Donc, pour ça, j'aimerais te remercier, Richard.
C'est gentil, et je pense que tu dis une chose essentielle. Essayer d'être soi-même et de pas tricher, c'est parfois compliqué, hein. Mais ça, on le doit souvent à celui qui nous donne l'occasion de le faire. Moi, j'ai un métier, je ne serais rien sans les rencontres des hommes que j'ai rencontrés. Aujourd'hui, il se trouve que c'est Antoine de Rémy, mais hier, c'était Gérard Chor. Ça a été à Lausanne, à Elipresse, Christian Besson. Voilà. Et puis, dans ma vie antérieure, ma vie n'a été faite que de croisements de gens qui m'ont donné l'occasion d'être moi-même. Vous imaginez, dans ce métier de la radio, qui est difficile, où j'ai fait ce si long parcours, ces gens m'ont fait confiance en me donnant un micro et en me voyant partir le matin et me faisant confiance en me récupérant des sons soir ou des missions ou autres. Bref, une grande liberté et cette confiance, ben, je l'ai assumée, je l'ai vécue et je la vis encore. Elle m'enrichit, mais elle dépend des gens qui me font confiance. Et c'est valable pour ceux que j'ai de l'autre côté de mon micro. Si nos relations sont chaleureuses avec autrui, si elles sont apaisées, si elles sont, ça ne veut pas dire qu'on n'évoque pas les problèmes. Mais tout ça, c'est cette façon d'être que j'essaye de garder, avec parfois un mauvais caractère, je vous l'accorde.
Bienvenue au club.
La générosité n'est faite que des marque de fer rouge que la vie nous a parfois imposé. Je ne suis pas un garçon unique. On a tous été marqués par des événements douloureux. Ben voilà, il y a deux solutions. Soit on avance seul, et c'est plus difficile à mon sens, mais certains s'y retrouvent. Moi, j'ai rencontré des moines qui s'y retrouvaient. Hein. Mais est-ce qu'on peut être moine dans ce monde agité sans porter la bure? J'en suis pas sûr. Alors moi, j'ai choisi au contraire. Peut-être des fois, comme dirait celle qui m'aime, de me noyer dans le travail et dans l'autre. Alors, ça m'intéresse. Je suis passionné dans le sens où je rencontre des vraies humanités, des gens qui ont une valeur de travail. Parce que j'ai toujours pensé, et ça c'est mon côté de mon papa qui était de la terre, que le travail, s'il ne te rapporte pas, il rémunère ton esprit. Ça, c'est très important à mon sens. C'est une valeur que je reconnais. C'est pour ça que je défends l'apprentissage, qui est en même temps un moyen de faire du compagnonnage, en même temps un moyen de passer la transmission des rites et des habitudes, mais aussi du savoir. Et tout ça est cohérent dans ma tête. Et c'est pour ça que, au-delà du micro qui est un amplificateur de son, moi, je ne suis qu'un passeur. C'est ce que je veux être dans la vie. J'essaie d'être avec les enfants et les petits-enfants, c'est d'être un passeur. Et ça, le sport m'a apporté. Mais au-delà de cette image du rugby, etc., et de ces valeurs que l'on entend partout, il y a cette idée de travail. Je suis très peu spectateur quand je vois des productions, quelles qu'elles soient, d'artistes, de paysans, de boulangers, de bouchers. La première chose qui me vient, je ne suis pas épaté, je suis ravi de voir le travail fini. Et je suis surtout intéressé comment ça a été fait, avec quelle sueur ça a demandé, quel sacrifice, et puis en même temps derrière, quelle richesse de savoir et de tradition. Et voilà, cette idée du travail bien fait pour les autres, avec les autres, et en plus partager, là je dis merci la vie.
Et puis peut-être aussi à ton papa qui donc travaillait la terre, si j'ai bien compris. C'est lui qui t'a passé cette envie de soutenir les producteurs de la région, de soutenir les produits du terroir, de soutenir nos paysans, à travers entre autres à travers tes interviews et les messages que tu fais passer.
Alors absolument pas. Moi, je suis d'une génération où on parlait pas. Donc mais tellement de choses, il m'a laissé tellement de choses. Et je peux pas dissocier mon père et ma mère qui ont des vies extraordinairement étrange, bizarre, merveilleuse et douloureuse, mais je crois que je suis un citoyen du monde dans le sens où ma mère a ce côté du sud-ouest et mon père de toute cette vallée du Sungao qui regroupe le Jura, l'Alsace, etc. Donc voilà, c'est ce melting pot qui me donne cette image de citoyen du monde. J'y crois énormément. Je défends la tolérance. Je lutte contre l'ignorance. Souvent, les réactions sont embêtantes parce qu'on va trop vite, on juge trop sans savoir. Et puis, je reviens au livre en disant que ce qui me peine le plus, peut-être, c'est qu'on ne s'attache pas à lire des choses actuelles, mais aussi l'histoire, savoir d'où on vient, pour savoir où on va, parce que tout ce qui se passe sur le plan politique, économique et social a déjà eu lieu et souvent l'histoire se répète. Et ce côté noir de la force me dérange, m'inquiète, m'interroge. Et vous savez, il y a un truc qui est important que j'ai noté, ce monde paysan dont on parle. Ils luttent, moi je connais leur souffrance, toutes les difficultés hein, financières, administratives, dans un canton qui est essentiellement, par exemple comme Genève, qui est essentiellement, on le rappelle, pour que ça dure, agricole, qui fournit la Suisse, qui fournit même parfois à l'étranger, et qui est mal connu au sein de sa cité, la cité de Calvin. Et bien eux, pourtant, ils sont hyper présents, ils travaillent, ils fournissent les mêmes produits, ils fournissent la grande distribution avec les grandes marques majeures, qu'elles soient orange ou jaune. Donc, on le sait, ça. Mais aujourd'hui, dans période de difficulté, à qui on s'adresse? Vers qui on va? Vers eux. Ils sont là. Ils sont vivants. Leur travail n'a pas changé. On avait juste oublié qu'ils nous nourrissent. On avait juste oublié que nous sommes responsables. On avait juste oublié qu'au lieu de critiquer ces grandes anciennes qui achètent à ces paysans, qui achètent à ces producteurs de lait, comme les laiteries réunies, comme au gros groupement suisse, comme l'Union maraîchère, etc. Ils achètent, ils participent à l'économie locale, ces grandes anciennes. Il ne faut pas les tuer. Il faut juste que nous-mêmes, nous ayons l'intelligence de la main. Cette intelligence de la main, elle suit l'œil, elle vient du cœur, de la volonté de choisir un produit, de lire l'étiquette et de savoir d'où il vient. Voilà. Il faut condamner personne. On vit dans un monde qui offre de tout. Ben oui, mais moi, je choisis. Et aujourd'hui, dans cette pandémie, on s'aperçoit qu'à côté de nous, il y a des producteurs qui s'organisent entre eux, qui sont solidaires. Et ça, c'est une belle victoire. Mais les beaux jours arrivent. On va oublier petit à petit ce virus. On va s'y adapter. On va le combattre différemment. On aura d'autres solutions. Est-ce que nous serons fidèles à ceux qui nous ont tendu la main et qu'on a découvert pendant cette pandémie? Est-ce que le même chemin, nous le repratiquerons demain? J'ose l'espérer, mais j'ai plus confiance en nos enfants qu'aux enfants gâtés que nous sommes.
Ce que je comprends de mon côté, c'est que habitant un peu vers la campagne, à Versoix, il y a des producteurs locaux, des fermiers qui vendent leurs produits directement de la ferme. Et en discutant à distance avec d'autres personnes, passablement de ces personnes viennent pour la première fois se fournir chez ces producteurs locaux et me disent que certainement par la suite, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas occulter. Le simple fait de se rendre compte que même si on doit attendre dehors, au moins on est à l'air, plutôt que d'être confiné dans une grande surface, de se rendre compte que ce que l'on achète là est vraiment issu des gens qui nous les vendent, et puis de se rappeler à ce moment-là qu'effectivement c'est bien le client qui est roi. Et qu'en fait, si nous sommes conscients que les seuls garants de notre énergie vitale, ce sont les paysans, et que nous sommes les rois, c'est à nous de donner la bonne direction aux grandes surfaces si nous devions absolument aller nous y fournir. Donc, souvent, je l'ai dit dans une interview précédente, excuse-moi, je parle un petit peu de moi deux secondes, que j'avais eu un petit souci avec un gérant d'une grande surface à qui j'ai fait remarquer qu'il avait 500 kilos d'ananas et bio qui venait d'Afrique. Je vais simplement gentiment faire remarquer que s'il veut montrer vraiment qu'ils sont bio, qu'ils mettent aussi les 1500 litres de kérosène qu'il a fallu pour importer ces ananas chez nous. Et c'est là qu'il m'a sorti, mais c'est le client qui est roi. Ça veut bien dire que nous avons une responsabilité par rapport à ces achats.
Oui, alors moi il y a deux choses. C'est d'abord dire que tu as raison. Moi je voudrais qu'on arrête de s'opposer. Parce que ce garçon-là dont tu parles, il est noyé dans une masse dans laquelle il ne décide pas, il est acteur, et simplement, il joue un rôle au sein d'une grosse société. Ses produits sont là. Ils sont là, c'est que la frontière les a laissés passer et que on est dans un système qui fait qu'ils sont là. On peut rien, on est trop petit, toi et moi, pour le faire, mais ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait depuis toi, et moi, depuis moi plus de 20 ans, c'est de dire à la radio, de sensibiliser, attention, n'allez pas acheter le bébé et l'eau du bain, mais choisissez ce que vous voulez manger. Regardez dans la vie de tous les jours, il y a effectivement des choses intéressantes dans ces grandes surfaces, mais il y a aussi un marché à côté. Les producteurs, en plus de leur travail, travaillent sur les marchés, font de la vente, etc. Donc c'est en plus de leur travail, hein. Donc on a des solutions. La vie n'est faite que de solutions. C'est sûr. S'il y a une solution, c'est qu'il y a eu un problème. Mais on a des solutions. Simplement, on va trop vite. Peut-être que cette pandémie nous dira de prendre un peu plus le temps. Et moi, j'ai une chose que je voudrais profiter sincèrement. Une chose significative à côté de cette grande distribution. Il y a une chose significative, c'est nos boulangers. Moi, je suis attaché d'abord pour la symbolique du pain, avec tout le mythe qu'il représente, tout l'aspect du travail dont j'ai parlé, du compagnonnage, mais aussi ce savoir-faire et cette volonté de faire. Je pense à tous nos boulangers qui sont vraiment, vraiment en difficulté et qu'il faut soutenir, mais pas soutenir par pitié. Soutenir en changeant son alimentation. Ces problèmes de gluten sont arrivés par ces pâtes surgelées, ces pâtes qui viennent avec des blés qui ont germé 3 fois de suite du côté des pays de l'Est. Donc, je le répète, le premier geste, et en plus, cette participation à ce dialogue social et du bien vivre ensemble, c'est aller le matin chez son boulanger. Il est là, et souvent il est encore là le soir, et de manger un bon pain, si vous mangez du pain ou autre chose, eh ben, c'est d'aller chez son boulanger et d'arrêter de prendre de l'essence à l'endroit où on vend du pain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est un symbole tout aussi fort que l'ananas.
Je pense que passablement nos auditeurs sont contents d'entendre cet échange. Et puis, effectivement, c'est important, le boulanger. Je me rappelle que quand j'étais gamin, il y avait une chose qu'on n'avait jamais le droit de faire, c'était de jeter du pain. Et mes parents me faisaient le signe de toutes les transformations qu'il fallait, de toutes les mains qu'il fallait, de tous les efforts qu'il fallait pour le produire. Et puis, pour moi, le pain est resté quelque chose de sacré. Je dis merci aux paysans en général et aux boulangers, bien sûr, je te rejoins totalement.
Je peux terminer par une chose.
Mais je t'en prie, Richard, vas-y.
J'y tiens vraiment parce que c'est ma question. Je ne vais pas vous donner de réponse. Cette pandémie, ce virus va partir un jour ou l'autre. On voit déjà que le Conseil fédéral va nous annoncer une réouverture. On va retourner travailler. La question que je me pose, on a connu le 11. Je vais vous donner 3 exemples. Le 11 septembre, on a connu les attentats avec Charlie. Tout le monde a été Charlie. On a tous été américains en septembre. Et on était tous acteurs du Bataclan. Dans les 3 cas, 1 mois et demi après, les choses ont été, si ce n'est oubliées, voire effacées d'une mémoire douloureuse. Est-ce que demain, nous effacerons ce virus et ce confinement et cet effort collectif d'une façon qui est douloureuse pour le monde, mais qui nous a enseigné tellement de choses dont on vient de parler, est-ce que nous l'oublierons aussi vite? Est-ce que nous reprendrons les travers ou, comme tu dis, nous continuerons d'aller chez Courtois, pas loin, rencontrer les autres et manger différemment, agir intelligemment? Moi, je me pose la question. Des fois, il y a des matins, quand je suis sur Radio Lac, je me dis que non. Quand je vais sur Facebook, je m'inquiète beaucoup. Et puis des fois, je me dis oui, parce qu'on est encore là et on a encore de l'écho à dire « c'est possible, c'est possible ». Voilà.
C'est un excellent questionnement pour conclure cette émission, Richard. J'espère du fond du cœur que nous allons garder quelque chose de positif de cette expérience. Et puis, j'y crois tellement, et je suis persuadé que quand la vie nous propose ce genre de choses, c'est pour trouver des solutions. Donc, je reste positif, et quant à moi, je continue de dire merci la vie, parce que j'ai en face de moi un interlocuteur qui y croit également, et je le sens dans son questionnement. Richard Koller, excellente fin de journée. Merci de nous avoir accordé, à nous, à nos auditeurs, ce moment, et puis à tout bientôt.
Merci Michel, merci David.